à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en universel du vendredi 4 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. Journée ville morte à Bangui à l'appel de la société civile alors que des informations font état d'une avancée des ex-rebelles Séléka vers la capitale. Promulgation de la nouvelle constitution tchadienne, le président Idriss Déby en profite pour amnistier les Tchadiens ayant fui le pays. Les autorités burundaises annoncent la suspension de la Voix de l'Amérique et de la BBC dans le pays alors que la campagne référendaire bat son plein. La justice malgache invalide une partie des lois électorales contestées par l'opposition.
Les revendications ne concernent plus seulement les lois électorales, mais vont carrément jusqu'à la demande de la déchéance du président de la République.
Et en Syrie, des rebelles dans le centre du pays remettent leurs armes lourdes aux forces loyalistes en vertu d'un accord avec le régime. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bangui, la capitale centrafricaine plongée dans la crainte d'une nouvelle attaque armée, les combattants rebelles de l'ex-Séléka, stationnés depuis plusieurs jours à Kagabandoro, dans le nord du pays, ont progressé aujourd'hui vers la ville de Dekoa, alors que la société civile avait appelé à une journée ville morte à Bangui, où nous retrouvons Freeman Sipila.
Paralysé depuis ce matin par le mot d'ordre du groupe de travail de la société civile appelant une journée ville morte, Bangui s'embourbe dans une psychose généralisée. Face à la progression des ex-Séléka vers Dekoa, ville située à plus de 200 km au nord de Bangui, la tension monte et le pays est menacé d'un nouvel embrasement. À l'Assemblée nationale, où les députés interpellaient ce vendredi le gouvernement, les propos ont été durs vis-à-vis des autorités centrafricaines et de la MINUSCA. Comment comprendre que ni le gouvernement ni les Nations Unies n'arrivent pas à empêcher les combattants de l'ex-Séléka qui veulent coûte que coûte replonger le pays dans le chaos, s'interrogent les élus de la nation. Mercredi, à l'issue d'une rencontre avec le cardinal Zapalainga, archevêque de Bangui, le président Faustin Akonjo Touadéra a déclaré ceci.
Je leur dis qu'ils ne réussiront pas parce qu'ils trouveront le peuple centrafricain devant eux. Ils trouveront le président de la République, ils trouveront les forces de sécurité aussi. Parce que ce qui s'est passé en 2013, ils veulent ramener cela. Mais nous disons non.
Comment le chef de l'État compte-t-il tenir à sa parole du moment où l'armée non encore opérationnelle est substituée par la MINUSCA ? À Bangui et dans certaines régions, même des civils se préparent à se défendre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby a promulgué aujourd'hui la nouvelle constitution consacrant la 4e République, un texte qui renforce les pouvoirs du président. André Konmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
L'aube nouvelle que les filles du Tchad appellent de tout leur vœu commence. La 4e République entame ses premières heures.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, promulguant la nouvelle constitution de la 4e République face à ses militants. L'homme à la voix fatiguée mais visiblement détendu déroule les actions qui seront au centre de la nouvelle République. Selon le président Déby, l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution consacre la refondation de la nation qui se veut plus ambitieuse et plus forte. La maîtrise de train de vie de l'État, la rigueur dans la gestion des choses publiques et l'assainissement des finances publiques doivent être au centre des priorités du nouveau gouvernement qui sera mis en place dans les tout prochains jours. Le président Déby annonce également la tenue des élections législatives et locales en novembre 2018 et proclame une amnistie générale pour les Tchadiens qui, pour des raisons ou d'autres, ont quitté le Tchad. Ils peuvent rentrer dignement dans leur pays. Déby s'engage à livrer une guerre sans merci contre ceux qui pensent qu'ils ont le cutis de détourner allègrement les deniers publics. Quelle que soit sa marque et sa puissance, l'enrichissement illicite et immoral doit s'arrêter, a-t-il dit, chose qu'il n'a pas pu faire depuis 28 ans de règne. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Les chefs des renseignements de 10 pays d'Afrique centrale se sont réunis aujourd'hui à Kinshasa. Ils ont déploré la prolifération des armes légères dans la région. Kalev Mouton, le chef de l'Agence nationale des renseignements de la RDC, dans une très rare apparition publique, a déclaré que les groupes d'autodéfense, les milices, les groupes armés, les organisations terroristes et les réseaux criminels transfrontaliers et transnationaux s'arment dans l'objectif de s'attaquer aux symboles de l'État. Au Burundi, le Conseil national de la communication annonce que les radios Voix de l'Amérique et BBC seront suspendues de diffusion pendant 6 mois, et ceci à partir de lundi. La raison, selon Bujumbura, des manquements à la loi régissant la presse et à la déontologie professionnelle. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourounziza.
Selon Karen Garamadani, le président du Conseil national de la communication, CNC en sigle, BBC devrait prendre en compte les principes d'équilibre de l'information et de la vérification rigoureuse des sources quand cette radio traite les informations sensibles sur le Burundi. Concernant Voice of America, Karen a déclaré que la station a violé les dispositions de la loi sur la presse en continuant à diffuser une partie de ses émissions en utilisant une application de diffusion en ligne d'une station de radio dont la fréquence avait été retirée par le CNC depuis septembre 2017. Karen Garamadani a aussi affirmé que la station est allée plus loin en recrutant un journaliste recherché par la justice burundaise. En outre, l'un des services de langue de VOA aurait diffusé en avril de cette année des informations jugées contraires d'une part aux règles de la profession et portant préjudice aux relations du Burundi avec les Nations Unies. Notons aussi que les stations internationales et locales RFI, Isanganiro et CCIB FM+, ont, elles, été mises en garde. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et nous y reviendrons également dans la partie magazine. Et dans le nord-est du Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées, 9 autres blessées dans des attentats suicides commis par des femmes kamikazes. Nous avons évacué 4 cadavres et 9 blessés à l'hôpital ce matin, a déclaré le responsable sécurité de l'agence nigériane de gestion des urgences de l'État du Borno. Boko Haram, qui mène une sanglante insurrection dans le nord-est du Nigeria depuis près de 10 ans, utilise régulièrement des femmes pour commettre des attentats suicides contre des cibles civiles et militaires. Au Kenya, des inondations ont fait au moins 112 morts depuis début mars. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Croix-Rouge kenyane. Les réactions se poursuivent au lendemain de la mort de l'opposant historique mozambicain Afonso de la Cama. Lors d'un entretien accordé à la télévision nationale, le président Philippe Nyusi a confié tout son désarroi face à la disparition de son adversaire. « C'est une mauvaise période pour nous », a ajouté le président, qui négociait depuis plusieurs mois avec le chef de la RENAMO, un accord de paix susceptible de mettre un terme à la rébellion qui a été relancée en 2013. De son côté, l'ambassade des États-Unis à Maputo encourage la RENAMO et le gouvernement mozambicain à honorer l'héritage de la Cama avec une nation libérée des chaînes de la guerre et de la violence. Nous y reviendrons également en partie magazine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche, ici aux États-Unis, dément avoir demandé au Pentagone de considérer une réduction des troupes américaines en Corée du Sud. Le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a fait cette précision quelques semaines avant un sommet historique prévu entre les dirigeants nord-coréens et américains. Selon le New York Times, Donald Trump avait demandé au ministère américain de la Défense de préparer des options afin de réduire le nombre de soldats américains présents en Corée du Sud. Un accord bilatéral autorise la présence de 28 500 militaires américains en Corée du Sud. Donald Trump, par ailleurs, qui s'exprime ce vendredi à la tribune de la convention annuelle de la National Rifle Association, la NRA, le lobby américain des armes à feu, ce sera à Dallas. C'est la 4e année de suite que Donald Trump assiste à cette convention. Il est accompagné du vice-président Mike Pence. Mais l'événement s'inscrit cette année dans un contexte de critique contre les fabricants d'armes et la dissémination des fusils d'assaut dans le pays après une tuerie le 14 février qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride. Nouvelle victoire du régime syrien. Des rebelles remettent leurs armes aux forces loyalistes dans le centre du pays en vertu d'un accord avec Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nathalie Barche.
Des rebelles et les forces du régime sont parvenus cette semaine à un accord de cessez-le-feu, notamment à Talbissé, Rastan et Al-Oula, dans les provinces de Hamas et Homs. Les combattants sont en train de remettre leurs armes lourdes et moyennes aux forces russes et à celles du régime syrien pour la 2e journée consécutive, affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les rebelles qui voudront partir seront évacués avec des civils qui bénéficieront d'un passage sécurisé vers la localité rebelle de Jarablos. L'accord prévoit le retour des institutions gouvernementales et la réouverture d'une autoroute entre Damas et Alep. L'agence Sana a fait état de l'entrée d'autocars à Yalda, un quartier de Damas, et à Babila et Beit Sam pour évacuer rebelles et civils dans le nord du pays en vertu d'un autre accord.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a présenté des excuses après des propos considérés comme antisémites sur les causes des massacres perpétrés contre les Juifs dans le passé. Si mes propos devant le Conseil national palestinien ont offensé des gens, en particulier des gens de confession juive, je leur présente mes excuses, a déclaré Abbas dans un communiqué. Il réaffirme condamner l'Holocauste et l'antisémitisme sous toutes ses formes. Mahmoud Abbas avait semblé lier l'antisémitisme au rôle des Juifs dans la société, notamment dans le secteur bancaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique. La Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manelekiza.
Le gouvernement congolais envisage l'exploitation pétrolière dans deux parcs naturels. L'ONG britannique Global Witness affirmait que Kinshasa veut la désaffectation ou le déclassement des zones pétrolières du parc de la Solanga Centre et du parc des Virunga Est. Global Witness rappelle que ce patrimoine est classé à l'UNESCO et demande à Kinshasa de renoncer à son projet. Les Virunga constituent le plus ancien parc naturel d'Afrique. Les réserves pétrolières y sont estimées à 6 758 milliards de barils, avec les recettes budgétaires additionnelles de 7 milliards de dollars. La télévision numérique terrestre TNT, censée être opérationnelle depuis 3 ans en Afrique subsaharienne, progresse toujours à pas comptés. Elle est seulement présente dans 9 des 48 pays qui ont achevé leur transition vers le digital. Ces pays sont tous situés en Afrique australe, orientale ou dans l'océan Indien. Namibie, Zambie, Malawi, Swaziland, Maurice, Tanzanie, Kenya, Rwanda et Ouganda. Le marché de la télévision en Afrique subsaharienne pèse aujourd'hui 4,3 milliards de dollars et conserve un énorme potentiel puisque nettement moins de 40% des foyers sont équipés d'un poste de télévision. Le taux de chômage ici aux États-Unis est tombé en avril à près de 4%, au plus bas depuis 17 ans. L'économie américaine a créé 164 000 nouveaux emplois, un peu moins bon que prévu. Les analystes s'attendaient plutôt à 190 000. Le nombre de chômeurs est descendu à plus de 6 millions et celui des personnes ne trouvant qu'un travail à temps partiel reste obstinément à 5 millions.
À présent, la page des sports avec vous, Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
La phase de poule de la Ligue africaine des champions.
On commence dans le groupe A, le choc ce vendredi opposant les ténors continentaux Al Ahly et l'Espérance de Tunis, avec une affiche totalement inédite également entre les Botswanais du Township Rollers et les Ougandais de KCCA. Dans le groupe B, le MCLG tentera d'enclencher une nouvelle dynamique positive face aux Marocains du Difa Alassani El Jadida sans complexe. Et puis un autre match, ce sera samedi, l'entente de Sétif face au tout-puissant Mazembe à Lumumbashi. Également demain, une opposition inédite entre l'AS Togo Port et Oroya Alomé. Et puis également les Mamelodi Sundowns face au WAC de Casablanca, ce sera à Pretoria. Et puis l'étoile sportive du Sahel chez les Angolais du 1er de Agosto, alors que le Zesco United se mesurera à Mbabane Swallows.
Steven Gerrard, entraîneur des Glasgow Rangers.
Oui, la légende de Liverpool deviendra cet été l'entraîneur des Glasgow Rangers, où il a signé 4 ans pour sa première expérience sur le banc d'un club professionnel. Steven Gerrard, milieu de terrain aux 114 sélections avec l'Angleterre, a passé 17 ans à Liverpool. Il a raccroché les crampons en 2016 après une dernière saison au Los Angeles Galaxy. Gerrard a entraîné depuis février 2017 l'équipe réserve de Liverpool.
Mauvaise nouvelle pour l'athlétisme au Kenyan.
Eh bien, le contrôle anti-dopage positif à l'EPO d'Asbel Kiprop a été confirmé par l'unité d'intégrité dans l'athlétisme. C'est un organe indépendant chargé des questions d'intégrité et de dopage dans la discipline. Cette unité a également rejeté les accusations d'irrégularité portées par le Kenyan, triple champion du monde et médaillé d'or olympique du 1500 mètres.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Avec 43 points et 14 passes décisives, LeBron James a de nouveau écœuré Toronto hier soir. Toronto qui subit une deuxième défaite d'affilée. Le Cleveland l'a emporté 128 à 110. Dans l'autre demi-finale de conférence, Boston mène 2 à 0. La franchise la plus titrée de l'histoire NBA a battu Philadelphie 108 à 103 devant son public.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. Le CNC, le Conseil national de la communication du Burundi, va suspendre la diffusion des émissions de La Voix de l'Amérique pour 6 mois à partir de lundi, alors que le pays est en pleine campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai. La décision touche aussi la BBC. Ce sont principalement les émissions quotidiennes en Kirundi sur la FM qui seront affectées. Dans un communiqué, la directrice de la VOA, Amanda Bennett, a condamné cette mesure du gouvernement burundais. Notre collègue Diane Ninina Hasway du service Kirundi de la VOA a obtenu une interview du conseiller juridique du CNC. Il s'agit de Gabriel Bihumu Gane. Au micro de Jacques Aristide, Diane Ninina Hasway nous résume les explications de ce conseil juridique.
Gabriel Bihumugani, premièrement, il a mentionné quelques dates, le 4 mai, le 16, le 26 et le 27. Il dit que les programmes, les reportages qui ont été diffusés sur les antennes de la VOA, Kirundi Kinyarwanda, n'étaient pas équilibrés. J'ai posé la question, c'était pas équilibré comment? Il n'a pas vraiment dû dire la raison, mais il a dit des programmes qui n'étaient pas équilibrés, des reportages qui n'étaient pas équilibrés. Autre raison qui a été mentionnée par le Conseil national de la communication, c'est que la VOA n'aurait pas signé le code de conduite qui devrait signer au Burundi avant l'organisation du référendum. Donc il y avait un code de conduite qui a été émis par le CNC qui n'a pas été signé par la VOA. Il l'a un tout petit peu mentionné sans toutefois s'y attarder. Il a dit, nous, on n'est pas là pour sanctionner. On est là pour montrer, là, ça va pas, là, ça n'allait pas, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Donc, si la voie de l'Amérique est ouverte, on peut négocier, on peut les dire ce qu'ils auraient dû faire et des fautes qu'ils ont commises. Donc, si la voie de l'Amérique est ouverte pour négocier, pour parler de tous ces manquements, nous, on est ouverts.
Comment la VOA réagit-elle à cette annonce du gouvernement burundais?
La direction de la Voix de l'Amérique se dit très concernée par cette décision du Conseil national de la communication au Burundi. Amanda Bennett, qui est la directrice de la Voix de l'Amérique, regrette énormément cette décision, mais promet que la Voix de l'Amérique va continuer de donner l'information via les différents canaux qui sont par exemple Shortwave ou les sites internet de différentes langues qu'utilise la Voix de l'Amérique au Burundi.
Quels sont les programmes qui vont être touchés par cette décision?
Pour le programme Kirundi Kinyarwanda, il y a par exemple du lundi au dimanche, on a ce qu'on appelle le call-in, l'émission Mulisanga de toute une heure. Une émission qui engage en même temps les auditeurs, mais également les responsables du pays dans différents domaines. Donc les auditeurs appellent pour poser des questions responsables de différentes institutions au Burundi. Mulisanga qui est de lundi au dimanche. Il y a l'émission Iwanyumunara qui se consacre beaucoup plus sur l'actualité des camps, des réfugiés, mais aussi sur l'actualité provenant des provinces intérieures du pays. Il y a l'édition de 19h30 qui est heureusement retransmise chaque 19h30 sur notre Facebook, mais aussi l'édition de 19h. Il y a d'autres émissions, à savoir la musique, à savoir d'autres émissions des débats politiques qui seront touchées. Mais comme je viens de le souligner, la direction de la Voix de l'Amérique dit que VOA, Juga America ou d'autres programmes qui seront touchés seront sur Shortwave, mais aussi sur les sites des différentes langues de la Voix de l'Amérique.
C'était notre consoeur Diane Ninina Hasway du service Kirundi de la Voix de l'Amérique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a invalidé une partie des lois électorales contestées dans la rue par l'opposition, une opposition qui a toutefois décidé de poursuivre sa mobilisation contre le président. Au micro de Morgane Guerrier, l'analyse de Louvassou Rabar, journaliste à Madagascar.
Alors, il s'agit essentiellement des dispositions qui sont justement contestées par les députés de l'opposition. Il y a par exemple cette disposition qui exige que chaque candidat à la présidentielle présente un extrait du casier judiciaire du bulletin numéro 2. Il y a aussi cette disposition relative à la durée de la campagne électorale au deuxième tour. Dans les textes originaux, il est question de seulement 7 jours pour la campagne électorale pour le second tour. Donc la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, a dit qu'il fallait que la campagne soit un peu plus longue que ces 7 jours initialement prévus. La Haute Cour constitutionnelle a également estimé que les campagnes électorales peuvent aussi être financées par des personnes morales de droit privé étrangères, c'est-à-dire les sociétés, les ONG, les entreprises étrangères, alors que dans les dispositions initiales, c'était interdit.
Mais alors pourtant, la mobilisation contre le président se maintient. Pourquoi ?
Parce que justement, ce que disent les députés de l'opposition, c'est que depuis donc le 21 avril, date à laquelle ils sont sortis du Parlement, les revendications, disent-ils, sont montées d'un cran. Donc les revendications ne concernent plus seulement les lois électorales, mais vont carrément jusqu'à la demande de la déchéance du président de la République. Il faut aussi noter que pour les députés de l'opposition, il ne s'agit pas seulement du contenu de ces lois électorales, mais ils contestent également la manière dont ces lois ont été adoptées. Ils disent qu'il y a eu de la corruption, ils soupçonnent la corruption des députés partisans du pouvoir dans l'adoption de cette loi. Donc, entre autres, ils demandent aussi à ce que les institutions concernées, la Haute Cour constitutionnelle ou le Bureau indépendant anticorruption se prononcent sur ces suspicions de corruption contre lesquelles ils ont aussi porté plainte.
C'était la journaliste Louva Sourabar, jointe à Antananarivo.
Les pays qui reçoivent l'aide des États-Unis sont-ils tenus de soutenir Washington en toutes circonstances ? C'est la question que l'on se pose ce soir dans l'Amérique et vous. Le président Donald Trump estime que les partenaires des États-Unis devraient soutenir la candidature conjointe nord-américaine à la Coupe du monde de football. Dans la même veine, Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, reprochant à l'organisation de ne pas soutenir les États-Unis, a insisté sur l'importance des contributions financières de Washington aux Nations Unies. Juste retour ou chantage diplomatique? Morgane Guiriec en votre compagnie. Rendez-vous ce soir à 19h temps universel.
Alfonso de la Cama, ancien guerriero et principal opposant mozambicain, a été retrouvé mort hier. Il avait 65 ans. Le leader du mouvement de résistance nationale du Mozambique, la RENAMO, défait lors d'une élection contestée en 2014, se préparait à se présenter à la présidentielle de l'an prochain face au président Filipe Nyusi, issu du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique. Pour une analyse des conséquences politiques qu'entraînent cette disparition, Anastasie Tudiech a interrogé Alvaro Andrade, journaliste au service portugais de La Voix de l'Amérique.
Les chefs de parti au Parlement, Ivan Soares, le nouveau de la Cama, nous ne savons pas qu'est-ce qui passe avec Ivan Soares, si elle a beaucoup d'importance dans le parti sans Alfonso de la Cama. Il faut également tenir compte de l'aile militaire, très important qu'il n'est pas représenté au Parlement.
Quel héritage laisse monsieur de la Cama?
De la Cama était un leader charismatique qui a représenté la lutte contre le régime du communisme, le régime du parti unique et contre le colonialisme. Il savait rassembler en soutien principalement l'Afrique du Sud, l'ancienne Rhodésie. Mais après 80 ans, il a changé complètement. Il a décidé pour faire certains accords de paix avec le gouvernement. Il a signé 2 accords de paix avec le gouvernement. Il était à 5 élections présidentielles. Il a perdu les élections présidentielles. Mais il maintient comme un politique qui a demandé la paix à Mozambique. Le Cama, c'est le plus important combattant et politique de Mozambique dans les dernières 10 années. C'est l'opinion de Joaquim Chissano, l'ancien président de Mozambique, qui a signé 2 accords avec Afonso de la Cama.
C'était Alvaro Andrade, journaliste au service portugais de la VOA.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'autisme est un handicap qui n'est pas suffisamment connu par le corps médical au Togo, qui a du mal à le diagnostiquer. Il est souvent assimilé à la surdité ou à une hyperactivité chez l'enfant. Pour les parents d'enfants autistes, seuls les orthophonistes viennent en aide. La prise en charge des enfants autistes au Togo, c'est un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Y a-t-il des enfants autistes au Togo? C'est la question que nous sommes tentés de poser, car dans le pays, il n'existe aucune statistique relative à l'autisme. Cet handicap est méconnu par la plupart des cliniciens. Pour les parents, c'est le calvaire. Djemila Yakubu a dû attendre 8 ans avant que le diagnostic ne soit posé pour son enfant.
Je l'ai su d'ailleurs tardivement. C'est à 8 ans que moi j'ai su qu'il souffre de l'autisme. C'est par le biais d'une amie qui est à l'étranger, qui a aussi un cas pareil à qui j'en ai parlé, qui m'a dit, bon voilà, en fait, ça s'appelle autisme. L'autisme est inconnu de beaucoup. C'est vraiment pénible pour la prise en charge de nos enfants autistes.
Cette maman de deux enfants autistes décrit le cycle de diagnostic de l'autisme au Togo.
Je peux dire que c'est seulement les orthophonistes qui sont venus à mon rescousse. Parce que au début, quand tu dis que ton enfant a ça, ça on te trimballe un peu partout chez le neurologue. Tout ça là, vous faites des trucs, des scanners, des trucs, on ne voit rien. Donc l'enfant est toujours dans son état. Et puis après, c'est les séances d'orthophonie.
Les difficultés de la prise en charge médicale sont entre autres relatives au manque de personnel qualifié, affirme Carrie Laure Athé, il est orthophoniste et prend en charge des enfants autistes.
Les difficultés sont énormes. D'abord, au niveau des structures de soins, nous n'avons pas encore le plateau technique dont il faut pour pouvoir diagnostiquer ces troubles-là. Les outils que nous avons aujourd'hui en tant qu'orthophoniste que nous utilisons sont des outils qui sont importés de France et qui ne sont pas adaptés à notre culture ici actuellement. Mais nous essayons de les adapter au mieux à notre culture pour pouvoir poser un diagnostic. Malheureusement, actuellement au Togo, il n'y a que les orthophonistes qui posent réellement le diagnostic de l'autisme. Puisque c'est une prise en charge pluridisciplinaire, on n'a pas de psychomotriciens qui vont poser leur diagnostic, les psychologues qui vont poser leur diagnostic, et donc on a un petit souci dans ce sens-là.
Pour la scolarisation, c'est une autre paire de manches.
Pour l'école, c'est pénible. Lorsque vous amenez l'enfant, il est agité, donc il est rejeté. Il est rejeté, on dit qu'il va frapper d'autres enfants, donc c'est ce que nous vivons. C'est difficile, il faut faire vraiment le tour pour pouvoir avoir une école pour ses enfants. Mon enfant, bientôt il aura 10 ans, il est scolarisé, mais à la maternelle.
Il y a 3 ans de cela, je voulais inscrire mes enfants, je suis passée par plein d'écoles, ils m'ont chassée. Ils disent qu'ils n'ont pas de place pour mes enfants. Et ils ont 7 ans et 5 ans. La plus petite a commencé par parler, le grand, c'est...
Edwige Bédé, la présidente de l'association Autisme Vivre et Grandir à Vège, a un grand rêve qu'elle nous dévoile.
Créer un centre spécial pour les enfants autistes et les suivre dès le bas âge. Parce que le suivi précoce leur facilite la vie et facilite la vie aux parents. Comme ça, ils viennent dans le centre. On essaie de leur apprendre l'autonomie, beaucoup de choses comme ça. Après, quand ils veulent aller dans l'école, une école normale, un griffe normal, ils ne seront plus stigmatisés comme cela se fait maintenant. Et puis, ils pourront rester avec les autres enfants.
Dans sa stratégie, l'association Autisme Vivre et Grandir veut apporter une lueur d'espoir aux personnes touchées par les troubles du spectre autistique en combattant la stigmatisation et en assurant le référencement pour le diagnostic et la prise en charge. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Sims Lumami, à la console Dan Crafton, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique. Les